paramoderne. Bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Aujourd'hui dans le podcast, je vais parler des enfants qui sont mauvais perdants, donc des enfants qui ont des fortes réactions devant la défaite ou devant le fait de pas arriver en premier. Je vais faire aussi un parallèle avec la rivalité qu'il peut avoir au sein d'une fratrie ou au sein d'un groupe d'enfants comme au CPE par exemple. Je suis Mélanie, la fondatrice de WeKid et de ce podcast Apprivoiser l'enfance, les doigts dans le nez. Je suis éducatrice spécialisée, puis ma spécialité, c'est les enfants d'âge préscolaire et l'accompagnement parental. Ma mission, c'est de vous rassurer sur les défis que vous pouvez vivre au quotidien, de vous apporter de l'information pour vous ouvrir à des nouvelles perspectives, c'est de vous aider à mieux comprendre la perception puis les messages qui se cachent derrière les comportements de vos enfants. Mon but, c'est de vous fournir des pistes de réflexion puis des outils concrets pour faire de votre quotidien un quotidien plus simple et plus doux. Si ce podcast continue à grandir puis à aider toujours un peu plus de parents puis leurs enfants surtout, bien c'est beaucoup grâce à vous. Alors je tiens à vous dire merci. Gênez-vous pas pour partager mon podcast ou les sujets qui vous parlent, de me faire un petit feedback en mettant une évaluation sur iTunes ou en m'envoyant un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Bon, aujourd'hui, je lis une question d'une maman qui a de la difficulté avec une de ses filles qui se sent beaucoup en compétition, qui réagit beaucoup devant la défaite ou du moins devant le fait de ne pas être la première dans la maison. Donc, je vous lis le courriel. Bonjour Mélanie, je me considère une de tes plus fidèles lectrices et auditrices. J'adore ton approche, je suis ton cours et j'écoute religieusement tes podcasts. J'ai une problématique avec mes filles à la maison et je pense que ça pourrait être un sujet de podcast. J'ai deux filles, 2 ans et bientôt 4. Dernièrement, ma 4 ans veut toujours tout faire en premier. Sortir du bain en premier, commencer à manger en premier, mettre son habit de neige en premier, se faire brosser les dents en premier, etc., etc. Elle fait souvent des crises quand elle n'est pas la première. Puis elle prend aussi des mauvaises décisions, comme par exemple de vouloir continuer à jouer plutôt que d'aller commencer à s'habiller alors qu'on commence à habiller sa petite sœur. On lui répète à plusieurs reprises que c'est le temps de venir s'habiller. Elle vient finalement quelques minutes plus tard et réalise alors avec une grande colère que sa sœur est déjà habillée et qu'elle n'est donc pas la première. Même chose pour le bain. Elle s'ostine pour pas monter prendre son bain, mais alors que mon conjoint monte avec la plus jeune. Puis après, elle fait une crise parce que sa sœur est entrée dans le bain en premier. On a essayé plusieurs choses pour diminuer cet esprit de compétition, entre guillemets. On lui explique par exemple que l'important c'est que tous les membres de la famille soient habillés pour qu'on puisse sortir dehors et non pas que quelqu'un soit habillé en premier. On l'avertit toujours à l'avance de ce qui s'en vient pour qu'elle soit au courant de la routine et des prochaines étapes. Je me demande si ça vient du fait qu'on a déjà utilisé la course comme manière de faire avancer les choses le matin de manière ludique. Mais là, on n'est plus du tout dans le ludique. J'aimerais trouver le moyen de gérer cette problématique qui revient plusieurs fois par jour et qui épuise notre patience à mon conjoint et à moi. Merci à l'avance pour ton aide. Bon, pour les enfants. Surtout quand on a plusieurs enfants dans la même famille, tout peut être une compétition. Qui va trouver la plus grosse chips dans le sac? qui va manger le plus de bleuets dans un casseau? Qui va finir de se laver en premier? Tout le monde aime gagner. Gagner fait aussi partie de notre instinct de survie. Les hommes de Cro-Magnon, là, si c'était pas dit genre « Rah! Je dois gagner contre ce gros mammouth pour me nourrir et survivre », ben aujourd'hui, on n'existerait probablement pas. Donc, c'est pas mal accurate de dire que c'est dans la nature humaine, l'envie, le désir, le besoin de gagner, c'est normal. Je veux nuancer l'aspect de l'esprit de compétition chez les enfants. Je crois qu'il est important de se rappeler que l'esprit de compétition, c'est un trait de personnalité chez certaines personnes. Que c'est pas du tout négatif, mais que certains humains naissent avec un désir plus profond qu'un autre de performer. Le danger avec ce trait de caractère-là, c'est qu'il peut être mal reçu par les autres, surtout par les parents, parce qu'évidemment, un enfant qui aime performer, qui aime gagner, ben il va pas aimer perdre, hein? Puis que les émotions associées ben, peuvent être vraiment grandes et importantes. Ça met des étiquettes négatives, parce que j'aime vraiment, vraiment pas les étiquettes négatives. Puis souvent, quand on met une étiquette négative à nos enfants, quand on lui dit qu'il est tel ou tel trait, comme, je sais pas moi, t'es tête de cochon, t'es traîneux, t'es mauvais perdant, ben ils finissent par internaliser le message, puis ça devient un peu leur narrative. On appelle ça l'effet Pygmalion, hein, c'est le fait de prendre les paroles que d'autres personnes ont dit, parce qu'on se les fait répéter souvent, puis qu'on finit par les croire au point où on internalise ce message-là, puis que ça change notre perception de nous-mêmes. Fait que si par exemple, tu t'es fait souvent dire quand tu étais jeune que, bon, toi, tu finis jamais ce que tu commences, ben probablement que tu t'es approprié ce message-là. Puis que quand tu termines pas quelque chose qui te tient à cœur, ben tu te dis, bah, c'est normal, là, de toute façon, moi je suis comme ça, je finis jamais ce que je commence, puis je suis pas persévérante. Alors que si tu n'avais pas internalisé ce message-là, ben peut-être que ta réaction serait différente. Peut-être que tu te dirais, ben moi, je suis une personne passionnée, j'aime ça m'investir dans plein de projets en même temps, j'aime ça passer d'un projet à l'autre en suivant ma motivation, parce que quand je suis dedans, ben, je suis full en feu, puis je suis full productive, puis au final, je finis toujours par revenir à mes anciens projets, puis à les terminer, ou peut-être que oui, effectivement, peut-être que je les abandonne, mais c'est parce que j'ai des meilleures idées en cours de route, puis c'est correct, je suis passionnée. Bon, tout ça pour dire qu'un enfant qui a un esprit de compétition, qui est compétitif, c'est pas une mauvaise chose. Ça peut juste vouloir dire que c'est un leader, qui est perfectionniste, qui est passionné ou qui est proactif. Chez les tout-petits, avant 3 ans, c'est souvent pas vraiment important le besoin de gagner. Ils sont souvent plus centrés sur « c'est mon jouet, c'est moi qui le veux, c'est à moi, c'est pas à toi ». Mais vers 4-5 ans, les enfants commencent à développer un désir d'être le premier, d'être le meilleur, d'être le plus fort, d'être le plus aimé, d'avoir le plus d'attention. C'est normal. Souvent, vers 4 ans, c'est beaucoup plus autour de comportements en lien avec la reconnaissance du parent. Tu sais, je veux avoir plus d'attention, je veux faire les choses en premier, je veux me sentir privilégiée, je veux ma place, je veux plus de temps avec mon parent, surtout s'il y a un frère ou une sœur d'impliquer. Vers 5-6 ans, on va beaucoup plus observer l'esprit de compétition en lien avec l'appartenance à un groupe ou le désir de gagner un jeu, à être le plus fort, à être le plus vite à la course ou à faire un plus beau dessin, avoir le plus de crayons que l'autre. Le fait de gagner ou de perdre, c'est un comportement que les enfants aiment, puis c'est un comportement que les enfants doivent explorer. Ils sont curieux par rapport au fait de gagner, ils sont curieux par rapport au fait de perdre. Puis ils sont curieux aussi au fait de socialement, qu'est-ce que ça m'apporte, moi, de gagner, puis comment l'autre se sent, comment moi je me sens. C'est des comportements qui sont normaux, surtout chez les enfants d'âge scolaire. Souvent, on les observe dès l'entrée à la maternelle, puis on l'observe beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les premières années au scolaire. Puis c'est des apprentissages qui se font aussi beaucoup naturellement chez les plus grands enfants. D'âge scolaire, il faut les laisser explorer la réussite puis la défaite, puis surtout explorer leur comportement. Bien, chez les enfants d'âge scolaire, chez tous les enfants en fait, là, il faut leur laisser explorer ça, explorer leur comportement, explorer leur réaction que ça cause chez les autres. Quelqu'un qui réagit vivement devant la défaite, quelqu'un qui est un enfant, s'il est au bout de sa vie, bien généralement ça va pas vraiment plaire aux autres. C'est toujours la même affaire à chaque fois. Si à chaque fois que l'enfant perd, c'est la fin du monde, puis il pleure, puis il fait des mésicocrises, mais ses enfants vont le trouver bébé ou désagréable. Puis bien, c'est la vie. C'est comme ça que les enfants apprennent à entrer en relation avec les autres, à fonctionner avec les autres, à ajuster leurs réactions. C'est pas quelque chose qui se force. C'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres, comment réagir devant la défaite. T'sais. C'est vraiment quelque chose qu'on apprend sur le tas, comme on dit. Ça fait partie d'un aspect important des relations avec les autres puis du développement de l'intelligence émotionnelle ou sociale. Puis il faut laisser les enfants qui sont en mesure de faire ces liens-là, bien, apprendre à se gérer puis à s'autoréguler par eux-mêmes. Oui, on peut les guider, là, mais le meilleur apprentissage que les enfants vont faire, c'est en le vivant eux-mêmes. Fait qu'il faut pas essayer de les surprotéger par rapport à ça plus qu'il faut. Comme parents, notre rôle ou notre façon d'être, ou d'agir avec nos enfants peut influencer ce genre de réaction-là ou de comportement-là. Si, par exemple, le parent est lui-même axé sur la performance, sur le gain, sur la proactivité, sur la réussite, ben alors, sans s'en rendre compte, il encourage ce genre de comportement-là parce qu'il agit comme modèle auprès de son enfant. Il ne faut jamais oublier qu'on est les mentors de nos enfants puis qu'ils risquent un peu de reproduire le même genre d'action ou le même genre de mode de pensée. C'est normal, on est leurs parents. Donc oui, le modèle du parent peut teinter ou encourager certains comportements ou certaines réactions chez l'enfant. On peut aussi, sans le savoir ou sans le vouloir, encourager ce genre de réaction-là par des commentaires qui sont vraiment pas mal intentionnés, là, mais genre « Wow, t'es le meilleur, t'es arrivé en premier » ou « Wow, t'es vraiment vite aujourd'hui, tu t'es habillé avant ta sœur ». C'est des réactions qui se veulent être renforçateurs. Tu sais, genre, je vais le féliciter parce qu'il s'est habillé rapidement pour qu'il le fasse demain. Mais en fait, ça renforce beaucoup le message que quand t'es plus vite que ta sœur, je suis plus content ou je suis plus fière ou t'as plus d'attention. Donc, nécessairement, ce que l'enfant va vouloir recréer, ça renforce le message que je suis supposée vouloir gagner, tu sais, dans le fond. C'est normal, je veux gagner. C'est ce qu'il faut que je fasse. Tu sais, dans la tête de l'enfant, ça peut devenir, ben, la vitesse à laquelle je fais les choses ou quand je fais les choses avant ma soeur ou avant mon frère, ben, mon parent me donne plus d'attention puis il est fier de moi. Je gagne plus d'amour de mon parent versus que, ben, quand je suis le dernier, mon parent est déçu ou il me dit de me dépêcher, il est impatient, il se fâche, c'est pas le fun, je perds. Pour un enfant qui vit avec un frère ou une soeur, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment challengeant, en fait, parce qu'il y a de la rivalité. Il y a même beaucoup de rivalité sur un aspect vraiment important aux parents, par rapport à avec qui mon parent va passer le plus de temps, qui mon parent va le plus aimer, de qui il va être le plus fier. Fait que parfois, ce genre de comportement-là cache une insécurité, qu'elle est très inconsciente là, chez l'enfant, à savoir quelle est la place que j'occupe dans ma famille. Est-ce que je suis meilleure que ma sœur? Si je suis meilleure que ma sœur, est-ce que mon parent va plus m'aimer? Autre chose importante à souligner, c'est que les enfants là, qui ont un fort désir de gagner, qui ont un fort désir d'être le meilleur, bien, ils ont aussi beaucoup peur de perdre. Puis dans une rivalité frère-sœur ou dans un contexte familial, bien, on ne parle pas de perdre une médaille ou de perdre un jeu. On parle de perdre du temps avec mon parent, de perdre l'attention, de peut-être même perdre l'amour. Parce que bien, si mon parent il est fâché, il m'aime peut-être moins. Si je suis moins bonne ou si je suis pas la première, ben alors je suis pas la meilleure, j'ai pas gagné. Peut-être qu'il m'estime moins, peut-être qu'il est moins fier de moi. Nous, on le sait, les parents, là, que c'est pas ça, que c'est pas le cas. On aime pas moins nos enfants parce qu'il s'est habillé moins vite puis qu'il est pas arrivé en premier. Mais nos enfants, eux, là, c'est le genre d'insécurité qu'ils ont dans leur tête. Donc, c'est super important de répéter souvent aux enfants qu'on les aime, qu'ils ont une grande place dans notre cœur. Je propose aussi de récompenser verbalement les efforts plus que le résultat. Parce que quand on félicite un résultat, c'est pas nécessairement équitable pour les deux enfants. Féliciter un enfant de 4 ans parce qu'il a mis ses souliers seuls, féliciter un enfant de 2 ans parce qu'il a mis ses souliers seuls, bien on comprend vite que le niveau de difficulté n'est pas le même. Fait qu'on pourrait plus aller dans le sens j'ai vu que tu avais de la difficulté à zipper seul ton manteau, tu as travaillé très fort, tu peux être fier de toi. Essayez de nommer les faits, de nommer les actions, de nommer les efforts, plutôt que de lancer des bravos à tout bout de champ. Récompenser un effort peut être aussi niaiseux que tu trouvais ça difficile puis te demander de l'aide, c'est une bonne stratégie. Ça envoie comme message à l'enfant que premièrement, tu le vois, tu le regardes, tu lui portes de l'attention puis que tu le soutiens dans ses efforts plutôt que dans la réussite. Je ne suis pas dans la réussite aussi, là, mais qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une réussite pour être soutenu puis pour avoir de l'attention. Surtout quand un enfant a un esprit un peu plus de compétition ou quand il y a de la rivalité puis que ça peut affecter son humeur ou que ça peut même affecter son estime, ça peut peut-être même affecter la relation entre le frère et la sœur ou la sœur et la sœur, si ça exacerbe leur sentiment de compétition entre eux. Fait que j'éviterais complètement toute phrase du genre « Wow, t'as fait ça vite aujourd'hui » ou « Bravo, t'es prêt en premier, tu vois comme c'est le fun quand tu te dépêches » pour vraiment venir renforcer les efforts qui sont faits sans jamais comparer les deux enfants ensemble en essayant de mentionner le moins souvent possible les mots « gagner », »,« plus vite », »,« plus fort », »,« plus grand » et compagnie, à moins d'être dans un contexte de jeu complètement approprié, là, évidemment, là, dans un jeu de société où, effectivement, il y a des gagnants, des perdants, mais en général, sinon, la vie, c'est pas une compétition. S'habiller, manger, se laver, c'est pas une compétition, puis elle va jamais l'être. Oui, effectivement, c'est vrai, on peut faire des courses, ça peut être un couteau à double tranchant, comme on peut le voir dans cette situation-là. Si ça pose problème. Le fait de faire des courses à la maison. Quand je dis faire des courses, c'est genre dire OK, go, c'est qui va être habillé en premier, tu sais, pour. Des fois, les parents, on fait ça pour vouloir distraire nos enfants ou leur donner une source de motivation, comme OK, go, 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 je vais m'habiller pour qu'ils se dépêchent, tu sais. Mais du moment que ça commence à poser problème, essayez de les éviter puis d'utiliser d'autres façons de rendre les choses amusantes. On peut faire des courses, là. On peut faire des courses dehors avec nos vélos, on peut faire des courses dehors en courant pour le plaisir, mais pour accélérer des actions qui demandent déjà des gros efforts aux enfants, mais c'est peut-être pas l'idéal, surtout quand il y a une réelle compétition, en fait, entre les enfants de la famille. Parce que un enfant de 2 ans va pas s'habiller à la même vitesse qu'un enfant de 4 ans. La vitesse à laquelle un enfant peut s'habiller, c'est pas vraiment une compétence utile, puis ça respecte pas, en fait, non plus le rythme de développement. Le fait que l'enfant arrive à s'habiller seul, en demandant de l'aide aux besoins ou à accepter qu'on l'aide sans qu'il s'offusque, ça oui, ça c'est une belle habileté d'être capable de demander de l'aide ou d'accepter l'aide. Faut jamais oublier aussi que les enfants ont beaucoup de difficultés à cesser une activité parce qu'ils s'amusent. Hein? C'est leur rôle, c'est leur job. Leur job, c'est de jouer. C'est probablement une des seules choses qui occupent leur pensée. Jouer, jouer, jouer. Fait que dans le contexte où la maman m'écrit, elle prend aussi de mauvaises décisions, comme par exemple vouloir continuer à jouer plutôt que d'aller commencer à s'habiller alors qu'on commence à habiller sa petite sœur. Bon, puis après, elle est fâchée de ne pas être la première. Ben, Seigneur, c'est normal, comme moi aussi, là, si j'ai le choix entre aller m'habiller ou continuer à jouer, puis j'ai 4 ans, je vais continuer à jouer, c'est clair. Puis, tu sais, c'est pas vraiment une mauvaise décision en soi. Mais peut-être qu'il y a juste un manque au niveau de la limite claire. Je présume qu'on lui dit peut-être quelque chose du genre si tu viens pas, ta sœur va être prête avant toi. Puis ça renforce peut-être aussi, en quelque sorte, cet esprit de rivalité-là avec sa sœur. Puis cette réaction-là de ma sœur est prête avant moi, mes parents sont déçus. Ou bien peut-être même ils jugent mes choix plutôt que d'essayer de me comprendre. Fait que j'éliminerais toute connotation avec la sœur, parce que dans le fond, la sœur n'a rien à voir avec la limite ou la consigne dans le fait de s'habiller ou d'aller dans le bain ou pas. J'essaierais d'éviter aussi de juger du choix de l'enfant qui a fait un choix purement par plaisir, ce qui est tout à fait normal, mais de plutôt aller dans le sens de je suis vraiment contente de voir que tu t'amuses bien, puis je te comprends, mais là maintenant c'est l'heure du bain. Veux-tu qu'on mette plein, plein, plein de bulles dans ton bain? Fait qu'on démontre à l'enfant qu'on le comprend, qu'on sait qu'il y a du plaisir, mais que maintenant, c'est le temps de passer à autre chose parce que c'est ça la vie. Sans nécessairement la mettre en compétition avec sa sœur, avec nous ou avec la montre même. Autre truc super important, si l'enfant fait une crise, c'est normal, c'est correct, puis il faut l'accepter sans avoir envie ou besoin de le corriger ou de nommer qu'on approuve ou pas son comportement. Sans avoir besoin de nommer qui est bébé de réagir comme ça, ou que c'est sa faute s'il est le dernier, ou que c'est sa faute parce qu'il a fait des mauvais choix. Les émotions sont plus grandes que le comportement lui-même. Dans le fond, là, c'est pas vraiment grave que l'enfant veuille être en premier ou qu'il veuille gagner, c'est même normal. Et ce qui est important de retenir, par contre, c'est que ton enfant vit une grosse émotion. C'est important de l'accompagner sans le juger. C'est important de lui laisser la place aussi pour exprimer sa colère, pour lui laisser la possibilité de vider son verre d'eau. J'en ai parlé dans le podcast sur l'enfant qui mord. Si on laisse jamais la possibilité à l'enfant de vider son verre d'eau, si on a toujours le réflexe de vouloir stopper la crise, de vouloir raisonner notre enfant pour qu'il ait un comportement plus raisonnable, mais ça lui laisse pas de place pour exprimer ses émotions. Si on laisse pas la place à l'enfant de vider complètement son verre d'eau en acceptant tout simplement qu'il est en colère parce qu'il est déçu de quelque chose, mais il va être beaucoup moins patient, beaucoup moins tolérant, puis son verre d'eau va déborder plus vite puis plus souvent. Si au contraire, on essaie de comprendre, qu'on lui laisse la place pour s'exprimer, pour dire qu'il est fâché, qu'il est déçu de ne pas être en premier pour s'habiller, de ne pas être le premier dans le bain, qu'on le comprend puis qu'on le juge pas, surtout qu'on le juge pas. Quand on lui laisse la place pour vider son verre sans avoir besoin de sentir qu'il faut réparer tout de suite, qu'il faut mettre un pansement sur sa colère ou qu'on veut éviter une crise pour notre bien-être, parce que quand on fait ça, on fait juste retarder les choses en fait. Parce que dans le fond, c'est pas à nous de décider si sa réaction est justifiée ou si sa réaction est déraisonnable. Que dans le fond, le fait que sa sœur soit dans le bain avant elle, c'est peut-être pas tout à fait la raison de sa crise. Peut-être que la raison de sa crise, c'est le sentiment d'être jugée. D'avoir un sentiment d'un manque de reconnaissance, un sentiment d'être incompris, un sentiment de vivre une injustice ou de se faire critiquer, justement, quand on se fait dire qu'on fait des mauvais choix. La crise, c'est peut-être juste le trop-plein de d'autres choses qui n'ont complètement aucun rapport, puis que ça, c'est juste le déclencheur qui fait que la crise sort maintenant. Dans le fond, tout ce que ton enfant te dit, c'est peut-être quelque chose du genre « je me sens pas super bien, je me sens pas comme un gagnant », puis le sentiment est probablement renforcé si en plus le parent ajoute quelque chose du genre « mais tu vois, si tu t'étais dépêché, on serait pas là ». C'est une grosse responsabilité sur les épaules d'un enfant qui est juste un enfant, puis qui fait des choix d'enfant, puis qui a des réactions d'enfant. Rapidement, en terminant, je tiens à te rappeler qu'être grande sœur ou grand frère, c'est pas rien, hein? C'est un gros, gros, gros défi pour les enfants, c'est un gros changement. Ils sont déjà dans un rôle de bad guy. Tu sais, le plus petit, il faut lui faire attention, il faut partager nos jouets, il faut être tolérant, puis il faut peux-tu nous aider avec ton petit frère, ta-ta-ta-ta-ta, puis le grand, ben c'est souvent lui qu'on dispute. Fais attention à ton petit frère, prête-lui tes jouets, aide-le, c'est pas gentil. Faut faire attention à ça, puis répéter à nos enfants qu'on les aime, toutes les deux. Offrir des moments aussi à chacun où est-ce qu'il y a de l'attention à eux. Puis seulement à eux, comme les 15 minutes magiques que j'explique dans mon cours, qui, en gros, veut dire de passer 15 minutes avec nos enfants, seul à seul, pour faire une activité ou un jeu de son choix, pour lui permettre de remplir leur petit réservoir d'amour puis d'attention. Ça leur fait du bien quand ils peuvent avoir un moment privilégié avec nous. Ça les rassure dans le fait que j'ai ma place, puis mon parent, il m'aime, puis il aime ça, passer du temps avec moi. C'est de venir rassurer notre enfant comme ça, puis ça peut venir prévenir plusieurs comportements, plusieurs crises et tout ça. Les grands aussi ont des privilèges de grands, puis c'est important de leur faire miroiter ça pour les réconforter dans leur rôle de grand frère ou de grande sœur, pour faire diminuer un peu le sentiment de rivalité. Genre, toi, t'es grand, tu peux te coucher un peu plus tard, tu peux embarquer seul dans ton siège d'auto, tu peux choisir tes vêtements seul, tu peux aller dans les plus grands modules au parc, t'as un plus grand vélo. Puis aux plus petits enfants, ben, on peut leur dire qu'on comprend qu'il voudrait faire comme son grand frère, mais c'est des choses de grand. Puis qu'un jour, quand il va être grand lui aussi, ben, il va pouvoir faire les mêmes choses que son frère ou que sa sœur. On peut pas tout faire ce qu'on veut dans la vie, puis on a le droit d'être déçu. Sois empathique et doux, mais sois aussi honnête. Sur ce, mon ami, sache que t'es pas seule, surtout que t'es capable. Tourlou!